Bonjour les auditeurs de Radio MDM, nous sommes dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire ». Dans la précédente émission, il y a 15 jours, j'ai parlé du château de Marsan, qui est le plus ancien de la ville de Roquefort, et dont les vestiges se dressent encore au confluent avec une tour ronde abritant la Peña. Aujourd'hui, je vais vous parler du second château de la ville de Roquefort, qu'on surnomme le château de Foix depuis au moins le XVIIe siècle, et dont les vestiges abritent aujourd'hui la maison du Troisième Âge. Au Moyen Âge, ce château ne s'appelait pas château de Foix. C'est plus tard qu'on lui a attribué ce nom, qui apparaît en 1609 dans un acte qui le décrit et qui décrit également les réparations qu'on doit y mener. En effet, les vicomtes de Marsan ne détiennent le titre de comte de Foix qu'à partir du XIVe siècle. Et comme le château a été édifié au moins avant le milieu du XIIIe siècle, on ne risquait pas de le surnommer alors château de Foix. Les documents du XIIIe qui le mentionnent le font sous le seul nom de château, château de Roquefort, puis plus tard château de Pennecadet, nom sur lequel on peut effectivement formuler une hypothèse, et ensuite plus tard, eh bien, c'est devenu château de Foix. Alors, pourquoi château de Pennecadet? Que signifie ce nom, ou plutôt ce surnom? Si je retiens la définition du dictionnaire Le Robert, un pen désigne en français la pièce mobile d'une serrure qui s'engage dans une cavité et qui tient fermé l'élément, porte ou fenêtre, auquel la serrure est adaptée. Il faut donc considérer qu'il s'agit d'une manière imagée de désigner ce second château, car il avait pour fonction de verrouiller l'accès à la ville du côté de la Douze. Et il est d'ailleurs lié au pont médiéval du même nom, le pont de Pennecadet, qui est un pont peut-être du XIVe ou du XVe, c'est très difficile à dire, car il n'y a pas eu d'études faites sur ce pont. Mais pourquoi l'appeler Cadet? Eh bien, il est probable que ce surnom de Cadet a été conféré au château parce qu'il était plus récent que le château de Marsan, tout simplement. Le surnom de château de Foix a dû lui être donné après le passage du Marsan et du Béarn entre les mains des comtes de Foix, c'est-à-dire après 1311, lors du décès de la vicomtesse Constance, qui avait légué à sa sœur Marguerite, comtesse de Foix, la vicomté de Marsan. Nous n'avons conservé aucun document évoquant sa construction. Mais son auteur est très certainement Gaston VII, vicomte de Béarn et de Marsan, entre 1240 et 1290. 50 années durant lesquelles il a apporté en Marsan des transformations importantes, de même qu'en Béarn, et notamment à Orthès, qu'il a doté notamment de fortifications. Le château de Foix est mentionné dès 1251, donc au milieu du XIIIe siècle. Et Gaston est alors marié à Matte, vicomtesse de Marsan, depuis au moins une dizaine d'années. Dans une précédente émission, j'ai dit que le château de Marsan avait d'abord été le siège de la vicomté avant la fondation de Mont-de-Marsan qui survient en 1141. C'est là, en effet, qu'ont vécu les vicomtes de Marsan des 11e, 12e siècles, quand du moins ils ne se trouvaient pas en Bigorre, où ils ont résidé quand même un certain temps. Ce château a donc appartenu de façon conjointe au vicomte de Marsan et à la branche cadette de la famille jusqu'en 1198. Et il faut bien dire que durant le XIIe siècle, très probablement c'était surtout la branche cadette de la famille qui résidait dans ce château de Marsan. En 1198, la vicomtesse de Marsan et comtesse de Bigorre et Pétronille qui a très peu habité le Marsan et très peu habité sans doute le château de Marsan à Roquefort, elle a cédé ses droits sur le château à ses cousins de la branche cadette. Donc, la famille de Marsan, cadette, va alors conserver en pleine propriété le château situé au confluent de la Douze, qu'on appelle Doulouse, et de l'Estampon. Mais du coup, les vicomtes, eux, n'ont plus de château. Or, Roquefort, par sa position géographique, outre qu'elle se situe sur une des grandes voies de pèlerinage venant de Vézelay, occupe une position stratégique entre le Marsan et le Gabardan, vicomté qui dépend du Béarn. Lorsque Gaston VII, vicomte de Béarn, épouse vers 1140 la vicomtesse de Marsan-Matte, il a besoin de conserver le contrôle de Roquefort, car elle lui donne accès à ses terres de Gabardan. Cela justifie donc la construction d'un nouveau château, qui a été surnommé plus tard Château de Foix, ou encore Château de Pennecadet. Mais comme nous ne savons pas quand il a été édifié, eh bien, cela reste, disons, de l'ordre de l'hypothèse, entre 1240, date de son mariage, sans doute, et 1251, date de sa première mention. Et cette décision, donc, de faire construire ce château a dû intervenir, par conséquent, assez rapidement après son mariage. Alors, 1251, c'est une date effectivement importante. En effet, c'est la date de sa confiscation, la confiscation du château, hein, par le duc d'Aquitaine, qui est alors roi d'Angleterre, et qui va faire saisir le château parce que le vicomte Gaston, qui s'est révélé être un vassal extrêmement turbulent, s'est rebellé contre le roi-duc. Il a souvent été en rébellion contre lui. Hein. Alors, effectivement, cela mérite quand même quelques explications. Pourquoi, encore une fois, le vicomte de Béarn et de Marsan va-t-il se révolter contre son seigneur ? Rappelez-vous que, notamment dans le dernier tiers du XIIe siècle, le vicomte de Marsan avait rejoint une coalition du vicomte de Dax et du vicomte de Labourg contre Richard Cœur de Lion, qui était alors duc d'Aquitaine. Et ça s'était très mal passé. Eh bien, il semble que Gaston n'ait pas forcément tiré beaucoup de leçons de la chose. En tout cas, les seigneurs gascons étaient souvent assez rebelles parce que, tout simplement, la féodalité qui leur est alors imposée petit à petit par le roi d'Angleterre, qui est une féodalité anglo-normande, est beaucoup plus stricte, beaucoup plus contraignante que le régime que connaissait l'Aquitaine avant que le duc d'Aquitaine ne devienne roi d'Angleterre. Alors, pour revenir à la féodalité, au Moyen-Âge, de toute façon, selon ces règles, un vassal qui se rebellait contre son seigneur voyait ses biens confisqués, puisqu'il les avait obtenus à l'origine de ce seigneur à qui il devait fidélité. Ses biens constituaient ce qu'on appelait le fief. Et donc, il devait hommage et fidélité à son seigneur, sinon, eh bien, s'il rompait ce contrat, à ce moment-là, le fief lui était retiré et les biens confisqués. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est ce qui explique la saisie des biens du vicomte lors de la première révolte de Gaston VII. Donc, le roi-duc fait saisir le château. Alors, ça se produit en 1253. Ça dure jusqu'en 1255. Ce sont les officiers, évidemment, de l'administration ducale qui vont se rendre sur place, qui vont tout simplement remplacer la garnison du vicomte Gaston par leur propre garnison. On sait par exemple, par un acte un petit peu plus tardif, que le château et la ville sont occupés par un chevalier du roi qui s'appelle Arnaud Garcy de Sescars et qu'il occupe notamment le château avec 20 fantassins à qui le roi-duc ordonne de payer la somme de 150 livres pour la garde de cette ville fortifiée de Roquefort en arrérage de leur gage dû. Parce qu'il faut dire que souvent, le roi-duc n'était pas un très bon payeur et qu'il fallait faire l'avance de tout ce que l'on devait dépenser avant d'être remboursé. Ça pouvait prendre plusieurs années. L'affaire de la saisie recommence évidemment, quelques années après. En 1274, la fille du vicomte Gaston, Constance de Marsan, s'oppose notamment à la saisie du comté de Bigorre par le roi-duc, car elle estimait que ce comté lui revenait. Effectivement, nous avons vu lors d'une précédente émission que la Bigorre avait été, pendant un moment, entre les mains des vicomtes de Marsan. Donc, elle s'oppose à la saisie de ce comté par le roi-duc. S'opposant à cela, eh bien, du coup, le château de Foix est alors saisi le 22 avril 1279 et les soldats du roi-duc vont l'occuper jusqu'en 1289. Donc voilà une histoire bien mouvementée. Et même d'ailleurs, encore une fois, en 1323, se produit une rupture entre le roi d'Angleterre, Édouard II, et le vicomte de Marsan, qui est comte de Foix, Gaston II. Et là, le roi-duc envoie un hoste en Marsan, c'est-à-dire une petite armée, et il remet la garde du château à Arnaud Guillaume de Marsan, qui est donc un cousin, un petit cousin maintenant un peu lointain quand même, hein, un petit cousin des vicomtes quand même. Alors, d'autres événements qui sont quand même plus agréables se sont produits autour de ce château de Foix. Par exemple, quand Gaston VII marie sa fille aînée Constance à l'infant d'Aragon en 1265, le vicomte lui donne en dot le château qu'il possède dans Roquefort. En 1310, Constance est alors âgée, déjà bien malade puisqu'elle va décéder l'année suivante. Elle rédige son testament et elle fait de sa sœur Marguerite de Foix son héritière. Elle lui donne alors la partie de la ville qu'elle détient avec le château de Roquefort. Alors c'est également dans ce château, par exemple, que, au milieu du XIVe siècle, Peille de Marsan, qui est co-seigneur de Roquefort, et Gaston Phébus, qui est co-seigneur avec lui, ces deux seigneurs accordent en 1357 une charte de franchise aux Roquefortois. On ignore totalement ce qu'il advient du château de Pencadet, ou du château de Foire, si vous voulez, durant la guerre de Cent Ans. On ne sait pas. On n'en entend absolument pas parler. Les 9 et 10 janvier 1584, Henri de Navarre, futur Henri IV de France, y séjourne avant de se rendre à Mont-de-Marsan, où il va demeurer donc jusqu'au 17 janvier. Le château est démoli peu avant 1626, lors d'un soulèvement de la Gascogne contre l'interdiction du protestantisme par Louis XIII. Bien qu'on n'ait pas conservé l'ordre de destruction du château, on sait que cela fut exécuté, car en 1626, un certain Gratien Séquède a pris 30 ou 40 cantons de pierre, aussi bien grandes que petites, de la ruine et démolition du château de Foix. Je vous propose un petit intermède musical, une chanson anglaise, The Agincourt Carol, Deo Gratias Anglia, c'est-à-dire une chanson du 15e siècle en vieil anglais qui raconte la bataille d'Azincourt. Ce second volet de l'émission consacré à l'histoire du château de Pencadet à Roquefort, château qui est également surnommé château de Foix. Je vais évoquer pour vous l'édifice, sa composition et son allure, car nous n'avons qu'une représentation assez générale de cet édifice avec la vue de la ville qui a été conservée et faite en 1612 par Joachim du Wirt, auteur d'un dessin à la plume qui montre l'ensemble de la ville de Roquefort vue de loin. Mais nous avons cependant une description détaillée qui nous est fournie par un procès-verbal rendu par les commissaires d'Henri de Navarre en 1607, Henri de Navarre ou Henri IV. Le château de Foix était installé au bord de la Douze, sur un éperon constitué par un trapèze d'environ 60 à 70 mètres de long sur 50 mètres de large. Il était situé à l'est du château de Marsan, dont il était séparé par un fossé plein d'eau qu'on appelait le crosse. Et ce crosse, qui a été comblé après le Moyen-Âge, donc, est aujourd'hui occupé par une partie de la rue de l'Église actuelle, rue du Capitaine Croiret. Le château défendait à la fois le bourg de la rive droite, c'est-à-dire le bourg de la Porte Castagne, le bourg de Pencadé sur la rive gauche, ainsi que le plateau vers l'est. Et l'élévation actuelle encore sensible du quartier où était situé ce château indique quand même bien clairement qu'on a dû mener d'importants travaux de terrassement pour donner au nouveau château un site dominant. Ce château donc comportait trois parties et dans son allure il est tout à fait représentatif des châteaux gascons. À l'intérieur d'une grande enceinte où se trouvaient donc une cour et un jardin, eh bien il y avait un corps de logis qui servait d'habitation principale. Au sous-sol, on y trouvait un grand et un petit cellier qui étaient destinés aux approvisionnements. Le rez-de-chaussée était un peu surélevé. On accédait notamment à une grande salle par une antichambre. Il y avait une garde-robe. En fait, la garde-robe, c'est le nom, le joli nom, disons, des toilettes. Et un premier étage avec des chambres. Comme il n'y avait pas d'escalier en pierre, il fallait donc monter dans les chambres par une échelle en bois. Les pièces étaient éclairées de croisées, mais seule la salle avait une grande croisée à meneaux qui a pu être ouverte d'ailleurs au XVe siècle parce que au XIIIe siècle, on ne faisait pas de fenêtres à meneaux, en tout cas dans la région. Ensuite, à côté du corps de logis, il y avait une tour principale cylindrique qui comprenait une entrée, un premier étage servant de communication avec les deux autres étages qui étaient utilisés pour des chambres. On trouvait une prison dans le sous-sol et une basse fosse au même niveau que les celliers. Là, un escalier en vis conduisait aux chambres et celle du second étage était éclairée par deux canonnières, ce qui ne faisait effectivement pas beaucoup de lumière. Enfin, on trouvait à l'angle des murs d'enceinte et des fossés la tour du coin qui était déjà ruinée du côté du fossé intérieur et qui était en train de s'effondrer déjà en 1612. Donc on entrait dans le château par une porte d'entrée dans le mur d'enceinte et un grand portail qui était situé devant le jardin du château. Cette porte d'entrée ne se situait pas du côté de la douze, mais du côté du bourg. Au-dessus de ce grand portail, au premier étage, il y avait une galerie avec une salle donnant sur la cour qui servait évidemment aux gardes qui surveillaient l'entrée et la sortie vers le château. Le mur d'enceinte protégeait le castelnau entre la tour principale et le pont ogival, ainsi que la partie qui était située entre la tour du coin et le corps de logis. Cette description générale étant faite, le procès-verbal de 1609 fait l'inventaire de toutes les réparations qui étaient alors nécessaires. Par exemple, la toiture du corps de logis s'est effondrée, ce qui a entraîné évidemment la dégradation des planchers des diverses pièces situées en dessous et qui sont donc en très mauvais état. Les portes de bois sont absentes ou bien dépourvues de fermeture. La plupart sont vraiment absentes. Beaucoup de fenêtres n'ont plus du tout de vantaux. Certaines ont été murées. La galerie du grand portail est inutilisable. La tour du coin est en train de s'effondrer. Sa démolition est même recommandée. Les réparations préconisées sont alors nombreuses. 3000 tuiles pour réparer la toiture du corps de logis. 1 000 000 de tuiles pour celle de la galerie du portail d'entrée. 2000 tuiles pour celle de la grande tour. Alors ce constat, hélas, est à rapporter à deux causes. Les guerres de religion qui ont affecté la ville et ses deux châteaux dans la seconde moitié du XVIe siècle, ainsi que le délaissement du château par les vicomtes. Si on prend la première cause, eh bien, la religion dite réformée, c'est-à-dire le protestantisme, ici c'est le calvinisme. Donc le calvinisme a eu une influence certaine sur ce secteur géographique. Saint-Justin comme la Bastide d'Armagnac sont d'importants foyers protestants. Roquefort elle-même est divisée entre catholiques et protestants. L'un de ses co-seigneurs se nomme Ponce de Ponce, c'est un protestant. C'est l'époux de Françoise de Marsan, fille du co-seigneur de Roquefort, et il est aussi seigneur de la case en Parlebosc. Ponce de Ponce a également été nommé sénéchal de Marsan par Jeanne d'Albret. Il occupe donc des fonctions extrêmement importantes. D'où l'influence du protestantisme qui s'est répandue, mais pas dans toute la population. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de documents de l'époque pour savoir exactement quels ont pu être les affrontements entre catholiques et protestants dans la ville, mais il y en a sans doute eu, et on peut poser au moins l'hypothèse de leurs conséquences probables. On a quand même un petit indice. Françoise de Marsan, donc l'épouse de Ponce, va demander ensuite une enquête du Parlement de Bordeaux sur le pillage et la destruction de ses biens par les troupes protestantes du comte de Montgomery. Il existe par exemple aux archives de la Gironde un cahier d'enquête sur lequel il est écrit « Cahier d'enquête, à la requête de Dame Françoise de Marsan, marquise de la Case, par laquelle il se justifie le pillage et le saccage du château de Marsan situé en la ville de Roquefort, et de tous les meubles qui étaient dedans et qui appartenaient au seigneur Pierre de Marsan, seigneur dudit Marsan. Et une autre pièce d'ailleurs précise que le pillage a été l'œuvre des troupes du comte de Montgomery en 1569. La seconde cause, eh bien, c'est quand même l'éloignement des vicomtes de Marsan, dont les intérêts ne sont plus liés à ce territoire depuis la mort de Gaston Phoebus en 1390. Ils se sont alors éloignés peu à peu du Marsan, même s'ils continuent à le gérer, mais ils le font gérer par leur administration. Et la vicomté de Marsan, comme la vicomté de Gabardan, ne font plus partie que de l'ensemble de leurs états. Et à partir du moment où la vicomté n'a plus représenté qu'un élément secondaire dans les domaines de ses détenteurs, que ce soit les comtes de Foix ou la famille d'Albret, le château de Foix a été délaissé. On peut donc remercier le roi Henri IV qui s'est soucié de l'état de ses châteaux de Navarre, et c'est grâce à cette initiative que nous en connaissons les dispositions en ce début du XVIIe siècle. Alors que demeure-t-il de cet ensemble disparu ? Eh bien, il demeure une grosse tour de pierre de taille et moellon, légèrement aplatie sur une face, qui a été bien entendu rabaissée. Et c'est dans cette tour qu'est installé le club du troisième âge. Elle comporte encore plusieurs ouvertures pour des couleuvrines, et on distingue même sur la partie haute des latrines. Le mur qui lui fait suite a été utilisé pour la construction de l'école primaire actuelle. Le château n'était qu'un des éléments des fortifications qui ont entouré la ville. Au moins deux enceintes ont défendu Roquefort au cours du Moyen Âge. La plus ancienne entourait le bourg, le premier bourg du château de Marsan, entre ce dernier et l'église Notre-Dame. Il n'en subsiste pas de vestiges apparents, sauf à mener une étude archéologique poussée au niveau de son tracé possible côté estampon. Il est fort possible qu'il reste effectivement des pierres, et j'avoue que si les habitants de Roquefort voulaient bien regarder au fond de leur jardin, peut-être trouveraient-ils effectivement ce genre de vestiges. L'enceinte est visible sur un dessin à la plume, donc le fameux dessin à la plume, réalisé en 1612 par Joachim du Wirth. Côté estampon, elle comportait deux tours rondes et une tour carrée. Et du côté intérieur, donnant sur la rue de l'église, qui est l'actuelle rue du Capitaine Croiret, on voit que les façades des habitations, qui sont jointives, devaient constituer la muraille, de même qu'on le voit juste en face, côté bourg, château de Foix. Un fossé à l'emplacement de la rue Croiret séparait les deux châteaux. C'est le fameux fossé qui était en eau avec le cross. Les documents ont conservé le souvenir de la porte du Comenail, c'est-à-dire de la commanderie située au nord de l'église, côté estampon. Cette tour et la porte lui correspondant ont été abattues en 1820 car elles étaient en ruine. Le second bourg, constitué sans doute durant la première moitié du XIIIe siècle, avait été également fortifié. Et sur le dessin de 1612, on voit bien la muraille qui apparaît au sud, le long de la Douze et à l'est. Côté ouest, en revanche, ce sont bien des maisons jointives qui forment la muraille défensive. Et donc, un large fossé en eau sépare les deux bourgs, qui étaient reliés par un pont donnant accès à une porte fortifiée, qui permettait de faire communiquer le château de Marsan et le château de Foix. On entrait dans le château soit en arrivant du sud et en traversant le pont dit de Pencadé qui donnait ensuite accès à une porte fortifiée vers le château de Foix, soit depuis le bourg par une autre porte située au débouché de la rue de l'église. Côté château de Foix, la porte et la tour castane ont laissé des vestiges bien visibles encore aujourd'hui, ainsi qu'un morceau de muraille, ainsi que également de même que la poterne du même nom. L'enceinte a été agrandie vers le nord à une époque qu'on ne connaît pas exactement, mais cela s'est produit lors d'une extension de ce bourg. On a alors créé la porte Lorraine qui donnait accès à la ville en venant de Saint-Gore ou de Vielle-Soubiran. Et aujourd'hui, eh bien, subsiste une dernière tour ronde près de la poste actuelle sur la place du Pujorin qui appartient à l'extension de l'enceinte. Roquefort détient donc de très beaux vestiges d'une histoire ancienne, vieille d'au moins 8 siècles. Il mérite le détour, la mise en valeur et la protection. Allez, cette troisième émission consacrée à Roquefort s'achève. Leur histoire est aussi notre histoire reprendra début septembre. Vous aurez donc l'occasion de réécouter les émissions précédentes durant les vacances d'été que je vous souhaite très belles. Un dernier morceau de musique en attendant septembre. Je vous propose un chant de Luc Arbogast, Vox Clamantis. Adi Schatz.
Sobre Ben Sodar.